Expulsion concertée de diplomates russes. En réponse à l'affaire Skripal, 60 Russes sont expulsés des États-Unis et 14 pays de l'Union européenne prennent des mesures semblables. Moscou dénonce une provocation et promet de riposter. Détenu depuis hier en Allemagne, l'indépendantiste catalan Carles Puigdemont attend d'être fixé sur son sort. En Catalogne, manifestations et blocages continuent pour réclamer sa libération. Un hommage national sera rendu après-demain au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, tué après s'être substitué à une otage. Tandis que l'enquête sur le djihadiste Radwan Lakhdim se poursuit, Laurent Wauquiez et Marine Le Pen accusent Emmanuel Macron de naïveté et d'inertie face au terrorisme islamiste. Et puis le gouvernement espère sauver des dizaines de milliers de vies grâce à la prévention. 20 mesures ont été présentées ce matin par le Premier ministre et la ministre de la Santé. L'Amérique du Nord et l'Union européenne ont coordonné leurs annonces. Après la tentative d'assassinat de l'ancien agent double russe Sergueï Skripal en Angleterre, de nombreux diplomates russes vont être expulsés en signe de solidarité avec le Royaume-Uni. Et la mesure la plus frappante vient des États-Unis, Gregory Phillips, puisque Washington ordonne l'expulsion de 60 Russes et la fermeture du consulat de Russie à Seattle.
Oui, le communiqué de la Maison-Blanche parle bien de 60 agents de renseignement, autrement dit 60 espions, qui ont 7 jours, pas un de plus, pour quitter le territoire américain. Décision du président Trump, c'est ce qu'on nous dit ce soir du côté de la Maison-Blanche, et l'ambassade de Russie à Washington a été prévenue ce matin. On n'avait pas vu ça depuis la fin de la guerre froide. En décembre 2016, l'administration Obama avait bien expulsé 35 diplomates russes, soupçonnés d'avoir influencé la présidentielle américaine, mais là c'est presque le double. 48 agents de renseignement connus, plus 12 diplomates qui travaillaient pour la mission russe aux Nations Unies à New York, et puis le consulat de Seattle sur la côte ouest va même fermer ses portes. Pourquoi? En raison, explique-t-on au département d'État américain, de sa proximité avec des installations sensibles, les usines du constructeur Boeing et une base de sous-marins. Vous le voyez, les États-Unis n'y vont pas de main morte, ils appellent à un changement d'attitude de la part du gouvernement russe. Pour l'instant, Trump, lui, ne fait aucun commentaire sur cette affaire, et puis il y a quelques minutes, à noter que la réaction de l'ambassade de Russie, ici à Washington, qui sur Twitter propose à ses abonnés de voter sur les mesures de rétorsion à prendre et propose aux internautes de choisir entre 3 consulats américains à fermer, Saint-Pétersbourg, Vladivostok ou Yekaterinbourg. La guerre froide, donc, Aurélie, mais avec les outils d'aujourd'hui.
Grégory Phillips en direct de Washington. Le Canada expulse 4 diplomates russes, l'Ukraine en expulse 13 et 14 pays de l'Union européenne annoncent également des expulsions, Marie-Pierre Véraud.
La France, comme l'Allemagne et la Pologne, vont expulser chacune 4 diplomates. Pour la Suède, les 3 pays baltes, le Danemark, les Pays-Bas, l'Italie, la République tchèque, la Roumanie et la Finlande, ce sera de 1 à 3 expulsions chacun. La Croatie devrait également s'ajouter à la liste. L'Europe met ainsi en œuvre les mesures décidées lors du sommet européen de la semaine dernière, quand l'Union avait dit sa solidarité avec la Grande-Bretagne. Les 28 sont cependant divisés. L'Autriche a ainsi annoncé qu'elle n'expulserait aucun diplomate russe. La Slovaquie, qui, quant à elle, étudie la situation. Moscou n'a pas tardé à réagir, tout en réaffirmant son innocence et fustigeant des alliés de la Grande-Bretagne qui, je cite, « suivent aveuglément le principe de l'unité euro-atlantique au détriment du bon sens, des normes d'un dialogue civilisé entre États et des principes du droit international ». La Russie ripostera, prévient le porte-parole du Kremlin, en adoptant un principe de réciprocité. C'est ce qu'avait décidé Moscou vis-à-vis de la Grande-Bretagne la semaine dernière, en expulsant 23 diplomates britanniques, autant que de diplomates russes renvoyés par Londres. La Russie a également ordonné la fermeture du British Council. Londres, de son côté, se félicite de la solidarité européenne. Theresa May y voit, dit-elle, un message selon lequel Moscou ne peut plus bafouer impunément les règles internationales. Quant à Boris Johnson, le chef de la diplomatie britannique, il évoque la plus vaste expulsion collective d'agents du renseignement russe de l'histoire, estimant que ces mesures vont contribuer à défendre la sécurité du continent. Selon le président du Conseil européen, des mesures supplémentaires, dont de nouvelles expulsions, pourraient intervenir dans les prochains jours.
Et Moscou promet de riposter à ces expulsions de diplomates. Le gouvernement russe dénonce une provocation, répète qu'il est innocent dans cette affaire. Carles Puigdemont se trouve toujours dans une prison allemande. L'ancien président de Catalogne attend de savoir si la justice allemande le maintient ou non en détention, le temps de décider d'une éventuelle remise à l'Espagne. L'arrestation de l'indépendantiste catalan accusé de rébellion par Madrid relance les tensions en Catalogne. Chez les indépendantistes, la colère domine, les plus radicaux multiplient les actions coup de poing. Illustration, le blocage d'un des principaux axes reliant l'Espagne à l'Andorre, où vous vous trouvez, Sébastien Berriot.
Oui, les grandes villes ne sont pas les seules à réagir après l'arrestation de Carles Puigdemont. Ici, dans les montagnes catalanes, les indépendantistes ont organisé ce qu'ils appellent la semaine de la dignité. Depuis hier et jusqu'à dimanche prochain au moins, une action est programmée tous les soirs à l'initiative des comités de défense de la République, un mouvement issu de la gauche radicale. Hier, en début de soirée, ces indépendantistes étaient quelque 300 à bloquer la frontière avec la France entre les villes de Puigcerdà et Bourg-Madame. Aucune voiture n'a pu passer pendant près de 2 heures. Et aujourd'hui, donc, l'action se déroule dans une toute petite commune, Bellver de Cerdagne, perchée à 1000 mètres d'altitude. Les manifestants s'apprêtent à bloquer dans quelques minutes la route nationale qui mène à la principauté d'Andorre. Ici, pas de violence avec les forces de l'ordre, comme on a pu le voir hier à Barcelone. Le mot d'ordre est de bloquer dans le calme, mais la colère est bien visible sur tous les visages. Chez ces indépendantistes radicaux, la haine contre l'Espagne est montée d'un cran hier après l'annonce de l'arrestation de Puigdemont. On est en train de nous voler notre démocratie et tout ça avec la complicité active de l'Europe, m'expliquait un manifestant. Même si les comités de défense de la République ne sont généralement pas d'accord avec la politique centriste que menait Carles Puigdemont à la Generalitat, aujourd'hui, peu importe, l'ancien président est devenu un symbole, le symbole à défendre.
Sébastien Berriot de France Bleu Roussillon, merci beaucoup. En Égypte, pas de remous. Le scrutin présidentiel s'est ouvert ce matin. Il doit durer 3 jours et l'issue du vote ne fait aucun doute. Les principaux candidats de l'opposition ont dû se retirer et le président Abdel Fattah al-Sissi va être reconduit pour un deuxième mandat. Des dizaines de milliers de soldats sont déployés autour des bureaux de vote et le seul véritable enjeu, ce sera la participation. En attendant, on a de belles images. Le reportage au Caire de François Humfer Kataji.
DJ aux platines, distribution de fleurs, pancarte à la gloire de Sissi et ces femmes qui restent mystérieusement plantées devant le bureau de vote de ce quartier central du Caire. La pantalonnade électorale en Égypte doit visiblement produire des belles images et du son rythmé pour les télévisions et les radios. Farida, professeure à l'université de médecine, est néanmoins ravie de voter pour al-Sissi.
Sissi, pendant cette période de transition, il s'en sort très bien. Il ne met pas les problèmes sous le tapis. Il regarde vers l'avenir. Peut-être que notre génération ne va pas bénéficier du travail qu'il fait, mais mon fils et mon petit-fils vivront bien.
Interrogé sur la différence notoire entre des jeunes désillusionnés et amers, beaucoup moins pro-régime que leurs aînés, elle estime qu'ils n'ont pas de vision et ne se rendent pas compte. Un peu plus loin, dans une rue parallèle, les travailleurs pressent le pas. Sur les 10 personnes interrogées en peu de temps, personne n'a voté aujourd'hui ni ne compte le faire. Mohamed, la trentaine, donne son sentiment sur cette élection.
Je n'ai pas le sentiment d'avoir le droit de vote, c'est une grande farce. Je crois qu'il y a un certain progrès dans le pays, mais je ne ressens rien en tant que membre de la classe moyenne. Oui, il y a des progrès dans la sécurité et la stabilité, mais en tant que jeune ici, je ne suis pas traité comme un être humain.
Dans l'un des bureaux que nous avons visité, 400 personnes avaient voté vers midi sur une liste qui comporte 6200 noms.
En Inde, un journaliste a été tué ce matin dans l'état du Madhya Pradesh, au centre du pays. Ce reporter venait de recevoir des menaces de mort. Il avait révélé la collusion entre un responsable de la police locale et une organisation de trafiquants surnommée la Mafia du Sable. Les précisions de Sébastien Farsi.
L'enregistrement vidéo capté par les caméras municipales fait froid dans le dos. On y voit un gros camion avancer à vive allure et faire un écart pour renverser un homme sur une petite moto qui disparaît alors sous l'engin. Ce motocycliste, un journaliste de 35 ans, meurt sur le coup. Ce crime est extrêmement suspect car ce reporter d'une télévision nationale, Sandeep Sharma, vient justement de révéler la collusion entre un policier et la mafia du sable. Ces trafiquants extraient illégalement ce sable des lits de rivière pour le revendre aux chantiers de construction qui s'en servent pour faire du béton. Ce commerce illégal endommage gravement les lits des cours d'eau, mais il est tellement juteux dans ce pays en plein boom immobilier que les trafiquants arrivent à payer les policiers pour qu'ils ferment les yeux. Ceux qui s'y opposent payent un lourd tribut. De nombreux militants, fonctionnaires zélés et journalistes ont été assassinés en Inde ces dernières années. L'enquête de ce reporter avait entraîné la mutation du policier incriminé. Il avait ensuite reçu des menaces de mort et déposé plainte, mais sans recevoir de protection. La police vient d'annoncer la formation d'une équipe spéciale pour enquêter sur ce crime.
Sébastien Farsi, correspondant en Inde de RFI et France Culture. Une cérémonie publique en hommage à Arnaud Beltrame aura lieu mercredi aux Invalides et le président de la République prononcera un éloge funèbre. L'officier de gendarmerie est considéré comme un héros national depuis qu'il s'est substitué à une otage vendredi à Trèbes. Il a été tué par l'auteur de l'attaque, le djihadiste Radouane Lakhdim. Alors que l'enquête se poursuit, resurgissent les débats sur les fichiers S et sur la nécessité ou non d'un état d'urgence, débat récurrent après des actes terroristes. C'est ainsi qu'on a entendu Marine Le Pen et Laurent Wauquiez reprocher à Emmanuel Macron sa candeur ou sa naïveté. Ils l'ont également accusé d'inertie. La position adoptée par Laurent Wauquiez n'a d'ailleurs pas fait consensus, même au sein du parti Les Républicains, Anne Fauquemberg.
Oui, au cœur de la polémique, c'est la proposition de Laurent Wauquiez ce matin d'interner les personnes fichées S considérées comme les plus dangereuses. Une mesure que le président de Les Républicains défend depuis plusieurs années, tout comme l'avait fait Nicolas Sarkozy lors de la primaire de LR et hier encore l'ancien Premier ministre socialiste Manuel Valls. Mais dans le camp de Les Républicains, les esprits les plus avertis freinent cette idée, tel Arnaud Danjean, l'eurodéputé spécialiste des affaires de défense et de sécurité. Il parle d'une sacralisation confuse de la fiche S, qui selon lui n'est pas l'alpha et l'oméga des services de contre-terrorisme. Même constat chez l'ex-directeur général de la police nationale, Frédéric Pechenard, aujourd'hui vice-président LR de la région Île-de-France. Il est carrément opposé à la rétention administrative des fichiers S.
Je ne pense pas que ça ait beaucoup de sens dans la mesure où c'est l'ancien policier qui parle, extrêmement difficile à mettre en œuvre. C'est très difficile techniquement, mais c'est très difficile bien sûr juridiquement. D'ailleurs, Monsieur Valls, qui l'a proposé, a été ministre de l'Intérieur, a été Premier ministre, et cette mesure n'a pas été prise. Je crois qu'il y a d'autres mesures, peut-être moins spectaculaires, mais plus efficaces, qu'il faudra prendre.
Frédéric Pechenard, interrogé par Europe 1. Parmi ces mesures moins spectaculaires, l'élu francilien se prononce pour le rétablissement des perquisitions administratives, comme c'était le cas sous le régime de l'état d'urgence. Dans la nouvelle loi antiterroriste, ces perquisitions ont été remplacées par des visites domiciliaires sous le contrôle d'un juge des libertés et de la détention. Et puis surtout, il faudrait renforcer le renseignement pénitentiaire, estime Frédéric Pechenard, un service crucial qui, selon lui, est aujourd'hui à l'état d'embryon.
Je me tourne donc vers vous, Florence Turm, qui est en charge du suivi de l'actualité en lien avec la police et la justice à France Culture, puisque la question du renseignement revient une nouvelle fois dans le débat.
Oui, 2008 reste une année charnière dans l'histoire du renseignement et de la lutte antiterroriste, celle où Nicolas Sarkozy fusionne l'ancienne DST, Direction de la Surveillance du Territoire, avec les renseignements généraux pour former la DCRI, la Direction Centrale du Renseignement Intérieur. Aujourd'hui encore, de nombreux policiers parlent d'un mariage raté dont l'affaire Mérat à stigmatiser l'échec, les anciens RG disparaissant du terrain qu'ils occupaient depuis des années. En 2014, le gouvernement socialiste engrange sa propre réforme. La DCRI devient DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure, sous l'autorité directe du ministère de l'Intérieur. En avril 2017, le ministre de la Justice inaugure cette fois le bureau central du renseignement pénitentiaire pour remplacer un précédent bureau sous-dimensionné compte tenu de la menace actuelle. À cette organisation structurelle s'ajoute le maillage des fichiers antiterroristes avec en premier lieu cette fameuse fiche S dont la méconnaissance alimente souvent la controverse. En réalité, elle permet davantage de baliser, d'échanger des informations, y compris au niveau européen, que de surveiller en permanence les personnes concernées. En 2015, un nouveau fichier a vu le jour, le FSPRT, fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Près de 20 000 personnes y sont actuellement recensées, identifiées comme radicalisées, mais à des degrés très divers. Radouane Lakhdim, le tueur de l'Aube, est ainsi fiché S en mai 2014, avant d'être inscrit au FSPRT un an plus tard, ce qui en dit long sur la difficulté, non pas à recenser, mais bien à analyser le renseignement. Un renseignement confronté à des terroristes isolés, capables d'un passage à l'acte sans organisation préalable, ni véritable contact avec une organisation opérationnel. Cela dit, le ministère de l'Intérieur fait état de 20 projets d'attentats déjoués l'an passé, deux autres depuis janvier qui visaient un équipement sportif dans l'Ouest et des forces armées dans le sud de la France.
Merci pour toutes ces explications, Florence Turm. Le parquet de Paris ouvre une information judiciaire pour assassinat à caractère antisémite après le meurtre vendredi à Paris de Mireille Knoll, 85 ans. Deux suspects ont été déférés devant un juge d'instruction en vue de leur éventuelle mise en examen, notamment pour assassinat à raison de l'appartenance vraie ou supposée de la victime à une religion et sur personnes vulnérables. Le parquet a requis leur placement en détention provisoire.
Une enquête administrative est en cours sur l'intrusion violente d'hommes cagoulés à la faculté de droit de Montpellier dans la nuit de jeudi à vendredi. Le parquet de Montpellier a également ouvert une enquête pour violence en réunion et avec armes après la plainte déposée par l'université et 5 étudiants. Aujourd'hui, les tensions restent vives. Ce matin, plusieurs centaines d'étudiants pro et anti-blocage se sont affrontés verbalement devant les grilles baissées de la faculté de droit, fermées jusqu'à nouvel ordre depuis les violences. Ces violences visaient des jeunes qui protestaient contre la nouvelle loi Vidal sur l'accès à l'université. Et ce mouvement de protestation se poursuit également dans d'autres facs, notamment à Toulouse, à Lingastal, où le blocage entre dans sa 3e semaine.
Oui, ils viennent de faire voter à nouveau pour une nouvelle assemblée générale qui vient de se terminer. Elle avait commencé à 12h30, elle s'est terminée il y a quelques minutes seulement, cette nouvelle assemblée générale qui était nombreuse. Il y avait un peu plus de 1000 étudiants qui ont donc tenu pendant un peu plus de 4 heures de discussion et de débat pour finalement aboutir à la poursuite de la grève jusqu'à jeudi et donc aux poursuites du blocage également de la faculté et de l'université jusqu'à jeudi. On a commencé ce mouvement le 6 mars et on sera donc le 29 mars jeudi lors de la prochaine assemblée générale. C'est un mouvement qui avait débuté au mois de décembre sur une revendication qui au départ était le refus de l'IDEX. C'est l'initiative d'excellence, c'est un label que distribue l'Union européenne qui se traduit par des subventions de plusieurs millions d'euros, mais qui passait par une fusion avec l'université voisine, l'université scientifique Paul Sabatier. Les étudiants et une partie majoritaire des enseignants refusaient cette fusion, contrairement au président de l'université qui, lui, l'avait accepté. Il y a eu un conflit qui a duré très longtemps. Le conseil d'administration a été bloqué pendant plusieurs mois. Finalement, les étudiants ont obtenu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire que l'IDEX a été rejeté. En tout cas, le jury d'IDEX n'a pas retenu la candidature toulousaine. Et puis le président Daniel Lacroix, qui était à l'origine de ce projet, a démissionné. En tout cas, il a été débarqué par le gouvernement qui a nommé un administrateur provisoire. Le mouvement aurait pu s'arrêter là, mais pas du tout. Il continue car une partie des étudiants et même des enseignants souhaitent s'adjoindre au mouvement. Par exemple, des cheminots, on parle beaucoup de la SNCF pendant les assemblées générales, on souhaite s'agréger à ce mouvement et même organiser à partir du 3 avril des actions communes avec les cheminots. Du côté de l'université, en revanche, eh bien, beaucoup d'enseignants se posent des questions. Que va-t-il se passer? Va-t-on pouvoir organiser des élections puisqu'il va falloir renouveler les conseils d'université, ça doit être fait normalement au mois de mai, mais tout cela est très hypothétique car pour l'instant tous les bâtiments, y compris les bâtiments administratifs, sont bloqués, ce qui fait que les payes ne peuvent pas être faites avec les nouvelles données et que notamment les vacataires ne peuvent pas être payés. Ça pose beaucoup beaucoup de problèmes pour l'administrateur provisoire qui pour l'instant fait preuve de patience mais qui parle maintenant de tenter d'organiser quelques cours éventuellement à l'université Paul Sabatier ou éventuellement en ville puisque le maire de Toulouse a proposé de prêter quelques salles pour organiser des cours ou des partiels dans l'université, toujours bloquée au Mirail.
Alain Gastal, en direct de Toulouse, et le syndicat étudiant UNEF appelle à une journée nationale de mobilisation mardi 3 avril contre la sélection à l'entrée à l'université. L'intersyndicale d'Air France appelle à durcir le mouvement pour obtenir une revalorisation salariale. Les 6 syndicats appellent désormais à 3 jours de grève, ce vendredi 30 mars, mais également le mardi 3 avril et le samedi 7 avril. Traitement anti-tabac remboursé comme n'importe quel médicament, vaccination anti-grippe en pharmacie, formation de la population aux gestes de premier secours, voilà quelques-unes des mesures du plan santé présenté ce matin par le gouvernement. Un investissement de 400 millions d'euros sur 5 ans, le plan permettrait, selon Édouard Philippe, de préserver près de 100 000 vies par an. Parmi les mesures marquantes, la création d'un programme national de dépistage du cancer du col de l'utérus, Boris Loumagne.
Et tout d'abord, ce plan consiste à mieux communiquer. Concrètement, toutes les femmes n'ayant pas réalisé de frottis dans les 3 dernières années seront invitées à le faire. Et surtout, ce dépistage sera pris en charge à 100%. C'est une très bonne mesure, selon Jean-Nicolas Munck. Le professeur de cancérologie à l'Institut Curie s'en félicite. On sort enfin d'un dépistage sauvage, dit-il, qui n'est ni structuré ni coordonné.
Quand une femme ou une jeune femme va consulter un gynécologue, celui-ci réalisait un frottis, mais il fallait que la personne fasse la démarche d'aller consulter le gynécologue, soit parce que le niveau d'éducation était suffisant pour lui dire que c'est bien de faire un frottis tous les 3 ans, il faut le faire, et donc on y va. Mais l'accès au gynécologue n'est pas toujours très facile, il est quelquefois cher avec des dépassements d'horaires, donc il y a très certainement aujourd'hui une inégalité d'accès au dépistage du col de l'utérus tant qu'il n'est pas structuré avec un remboursement de la consultation.
Alors ce programme de lutte contre le cancer du col de l'utérus fait-il l'unanimité? Pas totalement. Il est incomplet selon Bertrand de Rochambeau, le coprésident du syndicat national des gynécologues obstétriciens de France.
Dans ce cancer-là, le frottis est une chose, mais on a une arme beaucoup plus efficace qui est la vaccination. Et aujourd'hui, la vaccination n'est pas remboursé et n'est pas obligatoire. Et les modèles à l'étranger qui l'ont rendu obligatoire chez les adolescentes et les adolescents, l'exemple de l'Australie est édifiant. Aujourd'hui, il voit chuter de manière très importante le nombre de cancers du col de l'utérus et prévoit la disparition pour 2030 de ce cancer sur leur territoire.
Alors les médecins ne sont pas unanimes sur le caractère obligatoire du vaccin, mais ils se retrouvent tous sur un point. Le dépistage est capital. Dans le cadre du cancer du col de l'utérus, il permet de mettre en évidence des états précancéreux qui, dans 30% des cas, aboutissent au cancer. Ce dépistage est donc très efficace.
Boris Loumagne, le temps sera pluvieux demain avec du vent. Les températures varieront entre 0 et 9 degrés le matin. L'après-midi, il fera 8 à 14 degrés du nord au sud, 13 à 17 dans le sud-est. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.